franceinter.fr.
Permis de penser, bonjour à toutes et à tous. Des élections américaines, nous allons parler aujourd'hui. Que se passe-t-il? Comment comprendre l'irrésistible ascension d'un candidat qui, il y a moins d'un an, n'était crédité que de 4% des votes? Comment expliquer les difficultés à répétition d'Hillary Clinton? Explosion des partis, populisme? Et si les deux candidats ne plaisaient pas aux Américains? À 5 mois des élections, cartographie d'une démocratie, en proie comme en Europe, un rejet viscéral de l'établissement politique. Pour en parler, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui Russell Banks, écrivain, auteur de très nombreux ouvrages. Je ne rappellerai que Affliction, De beaux lendemains, Darling America et le tout récent Un membre permanent de la famille. Et Denis Lacorne, directeur de recherche au CNRS et au Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po, spécialiste de la politique américaine, auteur lui aussi de nombreux livres, dont De la religion en Amérique. Et nous allons commencer par écouter une archive qui va vous paraître peut-être très lointaine, et pourtant elle est assez récente puisqu'elle date de 2008. Nous écoutons un extrait du discours d'investiture de Barack Obama.
De cette élection, on retiendra sans doute beaucoup de choses. Mais celle qui me vient à l'esprit, c'est celle de cette femme qui a voté à Atlanta. Comme beaucoup, elle a fait la queue pendant des heures pour voter. Mais elle a une particularité, elle a 106 ans. Alors elle était là pour voir la ségrégation dans les bus à Montgomery et dans le sud du pays. Oui, qu'un jour nous le pourrions. Elle a vu un homme marcher sur la Lune. Elle a vu le mur de Berlin tomber. Et cette année, pour cette élection, elle a posé son doigt sur un écran pour choisir son candidat, parce qu'il y a 106 ans. Nous avons traversé les meilleurs moments, mais aussi les heures les plus sombres de notre histoire. Alors elle savait que l'Amérique pourrait un jour changer. Oui, elle savait que nous le pourrions.
Alors quand on entend la qualité du discours, l'empathie du public, la hauteur de vue de ce candidat Barack Obama qui devenait donc premier président noir des États-Unis, on se dit que ce que nous observons ici, c'est pas du tout la même chose. Comment expliquer la situation actuelle, Denis Lacorne?
Bon, les deux candidats en lice, sont deux blancs. C'est peut-être une régression. Deux blancs d'origine protestante, anglo-saxonne, Trump d'origine allemande, mais tous les deux protestants, mais avec des religions peu affirmées. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans la campagne d'aujourd'hui, c'est que la religion n'a plus de place, elle est mineure, parce que ce sont deux candidats qui ne sont pas connus pour leur pratique religieuse ou leur discours sur la religiosité. Et en même temps, le discours d'Obama est touchant parce que l'un des problèmes de cette élection aujourd'hui, à cause de décisions prises au niveau des États, surtout chez les républicains, décisions pour enlever le droit de vote ou empêcher le droit de vote aux Noirs, aux minorités ethniques, en les obligeant de produire des papiers d'identité avec photo, ce qui ne se faisait pas dans le passé et qui risque d'empêcher, par exemple, 600 000 Noirs de voter au Texas parce que c'est compliqué d'avoir des papiers d'identité, il faut conduire, faut avoir des extraits de naissance, il y a une énorme routine bureaucratique qui va décourager des minorités ethniques de voter, et ça fait partie de la tactique républicaine de limiter, dans le fond, d'atteindre vos adversaires en leur retirant le droit de vote, ce qui est tout à fait étonnant et triste, parce que c'est une chose ancienne aux États-Unis, bien sûr. Faut jamais oublier qu'après la guerre de sécession, les Noirs dans le Sud avaient la majorité, et puis peu à peu, on leur a retiré le droit de vote avec des clauses telles que la clause du grand-père. Il fallait prouver que son grand-père avait déjà voté pour voter, etc. Et c'est seulement avec Johnson, avec les grandes lois des droits civiques dans les années, milieu des années 60, en 1965-64, que les Noirs ont retrouvé le droit de vote. Et il est attristant de constater que cette reprise du droit de vote est toujours aujourd'hui un enjeu politique et que l'affaire n'est toujours pas réglée.
Alors, nous connaissons les difficultés, y compris très récentes ces jours-ci, d'Hillary Clinton. Mais est-ce que ce sont simplement des difficultés personnelles dues à sa manière d'exister politiquement, ou est-ce que ce sont des problèmes que rencontre son propre parti, Russell Banks? Peut-on d'abord, pour comprendre ce qui est en train de se passer en ce moment, dans cette qualification aux primaires qui aura lieu donc le 7 juin, peut-on tirer un bilan des deux mandats de Barack Obama?
C'est à la fois étrange, attristant et merveilleux d'avoir écouté cette archive. Le discours d'investiture d'Obama, le fameux « Yes, we can », enfin le discours est bien nouveau, alors, 8 ans plus tard. Et je crois qu'on est en train de dire « No, we can't ». Non, on ne peut pas. L'espoir distillé Obama au-delà des clivages sociaux, des clivages raciaux de genre ou autres, a été quelque peu atténué et très peu de ces espoirs ont été assouvis. Et comme vous venez de le dire, monsieur, les droits que l'on tenait pourtant pour acquis sont ô combien menacés. Et moi, mon point de vue sur la situation politique actuelle, je le décrirais ainsi. Mon point de vue est un petit peu différent du vôtre. À mes yeux, ce qui s'est passé au cours des 8 dernières années, c'est une désillusion croissante de l'opinion publique, en réalité. Les gens croient de moins en moins au rêve américain. Le rêve américain, c'est si je travaille, mes enfants auront une vie meilleure que la mienne et celle de mes petits-enfants sera meilleure que celle de mes enfants. Et il y aura plus de sécurité économique, il y aura une augmentation de l'éducation et ainsi de suite. Alors qu'au cours des dernières années, les Américains ont perdu foi en ce rêve. Les Américains ont réagi aux changements de la société américaine sur le plan racial, culturel, sexuel. Et là, on voit bien les différentes structures familiales qui ont été opérées, donc perte de foi dans ce rêve américain et la nature inévitable des mutations de la société américaine. Les Américains ont donc réagi, particulièrement les Blancs, par la peur et la colère. Donald Trump et Bernie Sanders
sont
devenus des truchements de l'expression de cette peur et de cette colère. Trump, lui, évidemment, jette de l'huile sur le feu et il montre du doigt les autres. Il appelle les Mexicains des violeurs et des voleurs. Puis il s'attaque aux musulmans. Il propose d'interdire l'accès au territoire à tous les musulmans. Eh bien, là, c'est une façon ô combien éculée de tirer un profit politique des craintes de la population, craintes que l'on pourrait qualifier de naturelles. Sanders, quant à lui, apporte un point de vue progressiste, sociodémocrate différent, et lui, il critique les riches de la situation actuelle. Mais les deux, Sanders et Trump, font appel aux mêmes impulsions, aux mêmes intuitions de l'opinion publique.
Donc,
il s'agit surtout de Blancs bien éduqués qui soutiennent Sanders. Chez Trump, c'est le contraire. Ce sont des Blancs, certes, mais ce sont des gens plus âgés qui le soutiennent. Ce sont des gens plus pauvres, évidemment, qui n'ont pas le même niveau d'éducation que les gens qui soutiennent Sanders. Et au milieu, il y a Hillary Clinton. Alors, elle, c'est business as usual. habituel. On continue comme d'habitude. Voilà. C'est la même chose qu'elle propose que les candidats depuis 6 ou 8 élections, vous voyez. Mais voilà les trois entre lesquels il faut choisir. Et Trump et Sanders sont les plus déstabilisants. Mais en réalité, ils réagissent aux mêmes choses, aux mêmes sentiments chez les électeurs.
Nous écoutons Hillary Clinton qui parle de Donald Trump et des femmes.
L'autre jour, Donald Trump m'a accusé de jouer la carte des femmes. Eh bien, si se battre pour la santé des femmes et le congé parental rémunéré et l'égalité des salaires, c'est jouer la carte des femmes, alors allons-y. Je serai tellement mieux pour les femmes qu'Hillary Clinton, tellement meilleure sur les questions de santé. Et vous savez sur quoi d'autre ? Sur la protection de notre pays. Parce que c'est tout ce qui compte. Nous devons protéger notre pays.
Alors, Denis Lacorne, êtes-vous d'accord avec l'analyse que vient de faire Russell Banks ? Êtes-vous aussi déçu des 2 mandatures de Barack Obama ? Parce qu'après tout, le pays se porte bien économiquement. Il y a eu Obamacare, il y a eu des avancées aussi dans le domaine des mœurs, je pense là au mariage homosexuel. Donc, historicité des conséquences des 2 mandatures de Barack Obama. Et d'autre part, d'après les derniers sondages venus des États-Unis, manifestement, il se passe quelque chose de très nouveau, c'est-à-dire que il serait au coude à coude. La candidate démocrate serait à 44% et le candidat républicain à 46% d'après la dernière enquête d'opinion publiée il y a 2 jours par le Washington Post. Donc il est en train de se passer quelque chose. Il est peut-être trop tôt pour pouvoir analyser le résultat de ces instituts de sondage, mais en tout cas dans l'opinion publique américaine, il est en train de se passer quelque chose. Comment l'expliquer ?
Les succès dans les sondages de Trump sont relativement faciles à expliquer. Il n'a plus d'adversaires. Il a éliminé 16 compétiteurs.
Donc mais ça, pourquoi et comment ?
Oui, alors ça, il faut l'expliquer. Alors qu'Hillary Clinton, elle est toujours en conflit avec Sanders, même si elle va très probablement l'emporter à la convention du parti démocrate.
Oui, mais si Sanders apparaît comme celui qui peut finalement gagner sur Trump, là aussi, peut-être les dés vont être rejetés, non ?
Non, parce qu'il n'a pas assez de délégués pour l'emporter au parti démocrate. Ce que va faire Sanders, c'est essayer de réformer ce parti, essayer d'imposer certaines modifications au sein du Parti démocrate parce qu'il aura, il sera présent et ses supporters seront présents. Il y a un comité des règles qui est mis en place dans le Parti démocrate et malheureusement, il a la minorité. Il va placer 5 de ses amis sur un total de 15. Mais qui sont les pions, si je peux dire, qui sont avancés par Sanders à la convention du Parti démocrate? Il vient de dire, qui va-t-il nommer là? Cornel West, qui est un noir très, très radical. N'oublions pas que Cornel West est quelqu'un qui avait dit Obama, c'est un Rockefeller Republican with a black face, qui plutôt insultant, disons. Il y aura Zogby, qui dirige l'Institut des Américains d'origine arabe. Il y aura Keith Ellison, qui est un noir musulman de l'État de Minnesota, c'est très intéressant aussi, qui est le premier noir qui avait prêté serment sur le Coran au moment de son élection. Donc il y a une vision très particulière des choses qui représente Sanders, et avec des débats musclés très certainement à propos d'Israël, parce que le point de vue de Sanders est très différent de celui d'Hillary Clinton. Et en même temps, il faut expliquer le phénomène Trump. Je crois que c'est le plus intéressant dans cette élection. Et je crois que ce qu'il y a d'extraordinaire chez Trump, c'est que il remet à la mode, dans le fond, toute une littérature qu'on a oubliée. Et je pense à Max Weber, qui fait une grande différence dans ses écrits sur la religion entre le leader charismatique, la légitimité charismatique et la légitimité traditionnelle. La légitimité charismatique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on rejette toute tradition, on se prétend hors normes, on agit en dehors des règles normales, et plus on piétine ses règles, plus on insulte ses adversaires, plus on dit tout et n'importe quoi, plus ça passe, parce qu'on est un peu comme le prophète, ou le magicien, ou le chef d'un gang, on est hors norme, et évidemment on est d'autant plus perçue comme légitime par ses supporters qu'il y a toute une série de miracles, entre guillemets, qui prennent place, c'est-à-dire que... On l'emporte alors que tout le monde prédisait qu'on serait, ça serait un échec. On élimine les adversaires les uns après les autres. Donc, il y a toute une série de choses, de phénomènes qui légitiment encore plus. En fin de parcours, le leader charismatique, si on relie Weber et d'autres, c'est le leader qui peut dire ce qu'il veut, peu importe le contenu. Ce qu'on aime, c'est son apparence, c'est l'attitude qu'il a, l'homme fort, qu'on va soutenir presque aveuglément, et qui est capable de jouer sur les émotions. La force, disons, du leader charismatique, c'est qu'il va jouer sur les... Et alors, ces émotions, on vient de le dire très très bien, Russell Banks l'a très bien dit, c'est le ressentiment, la colère, le ressentiment, l'impression que les choses ne marchent pas ou vont plus mal, et qu'il faut, d'où le slogan qu'il utilise, « Make America Great Again », rendre l'Amérique forte à nouveau, grande à nouveau, qui est un slogan un peu nostalgique. Il évoque peut-être les années 50 ou les années d'avant la déségrégation, d'avant la victoire du mouvement des droits civiques, les années où là, on pouvait avoir l'illusion encore, parce que c'était une illusion, que l'Amérique était totalement blanche. Et c'est ça qui le soutient avec un électorat qui va très en deçà de l'électorat républicain traditionnel, puisque ce sont, si on fait la géographie des électorats, Trump, c'est quoi ? C'est... la classe ouvrière blanche, un peu les déçus de la globalisation et les déçus de la reprise. Il y a une vraie reprise. Obama, il y a une vraie reprise de l'économie. Il y a un taux de croissance qui est très supérieur à ce qu'on connaît, nous, en Europe, à peu près 2% par an. Mais tout le monde n'a pas bénéficié de cette croissance. Donc, il y a les déçus de l'économie américaine. Et qu'on trouve où ça ? Dans les grandes banlieues, dans les petites villes, dans des zones rurales, ou dans quelques villes abandonnées parce qu'elles sont désindustrialisées, et qu'on trouve plutôt dans le sud et dans le Midwest des États-Unis, alors que l'électorat de Hillary Clinton et des démocrates en général, c'est un électorat urbain, les grandes villes de la côte est et de la côte ouest, très éduquées, et c'est aussi l'électorat des minorités ethniques qui vont massivement voter pour elle, même s'ils n'ont pas d'ailleurs tous bénéficié de la reprise économique. C'est-à-dire que les Noirs, on s'attend à ce que 90% d'entre eux vont voter pour elle. Les Hispaniques, plus de 70% d'entre eux ont voté pour elle. Les Asiatiques, même chose. Et pourquoi ? Ils ont été insultés, dans le fond, systématiquement par Trump, qui a prétendu qu'il allait chasser 12 millions d'illégaux de sans-papiers s'il était élu. Évidemment, ça crée un climat détestable, et c'est pas par hasard que les minorités ethniques vont se mobiliser contre Trump. Et puis le vote féminin, faut pas l'oublier non plus. Avec ce paradoxe, c'est que en termes d'électorat pur, il y a plus de femmes que d'hommes. Alors pourquoi, je n'ai pas de réponse à ça, mais 53% des électeurs sont des femmes et 47% des hommes. Et avec toutes les insultes, l'antiféminisme de Trump, ça peut que favoriser un mouvement. Et là se pose une question qui est fondamentale, je crois qu'il faut soulever maintenant, c'est la carte, est-ce que Hillary Clinton a intérêt face à Trump à jouer la carte du féminisme ? La réponse, c'est oui, parce qu'elle a fait partie de cette génération de femmes qui a lutté pour les femmes. Ce qu'ont oublié beaucoup de jeunes, d'ailleurs. Pour beaucoup de jeunes, c'est acquis, c'est le passé. On n'aime pas Hillary Clinton parce que she's a has-been. Elle est là depuis trop longtemps. Et ces luttes pour les femmes, c'est des luttes qui, pour nous, sont acquises. Donc, ça, l'enjeu n'est plus là. Et la stratégie de Trump, c'est quoi ? C'est de diaboliser le féminisme d'Hillary Clinton, de façon d'ailleurs monstrueuse, parce que...
Oui, parce qu'il prétend que Hillary Clinton était complice des ébats de Clinton.
Elle est la maquerelle de son mari, c'est elle qui était la rabatteuse de femmes. Elle l'accuse de meurtre, lui et Clinton, il fait ressurgir la vieille histoire de Vincent Foster, qui n'a pas de fondement, mais il fait ressurgir tout ça. Donc c'est sa stratégie, diaboliser le féminisme d'Hillary Clinton, ce qui est tout à fait étonnant. Et du coup, elle a intérêt, non pas à mettre entre parenthèses son féminisme, ça fera partie de ses thèmes de campagne, mais à mettre l'accent sur d'autres thèmes qui restent fondamentaux, qui sont très bien abordés par Russell Banks. L'inégalité, c'est ce paradoxe d'une économie qui marche, mais avec trop de laissés pour compte, et donc des inégalités qui se creusent, et on le voit dans toutes les catégories d'ailleurs d'Américains. Vous avez beaucoup de jeunes qui ont fait de très bonnes études, mais qui sont, comme on dit, underemployed, c'est-à-dire qu'ils ont des diplômes, mais pas d'emploi qui correspond à leur diplôme, et qui vivent toujours chez leurs parents, parce qu'ils ne peuvent pas se payer un loyer dans les grandes villes de l'Est ou de l'Ouest. Donc il y a un vrai problème, une pauvreté latente qui est là, et qui touche, y compris les classes, disons, éduquées, intellectuelles. Et c'est ça l'un des enjeux. Comment répondre à ces inégalités? Et à beaucoup d'égards, je crois que Sanders a peut-être de meilleures réponses qu'Hillary Clinton sur la question des inégalités. Ses chances sont pratiquement nulles, qu'il soit le candidat du parti démocrate.
Nous écoutons Hillary Clinton. C'était il y a un an et demi. Elle va s'excuser pour l'utilisation des mails. Histoire qui est revenue sur le devant de la scène médiatique et politique il y a quelques jours.
That was a mistake. I'm sorry about that. I take responsibility. And I'm trying to be as transparent as I possibly can.
Going a step further than her comments in late August.
I know people have raised questions about my email use as Secretary of State, and I understand why. I get it. So here's what I want the American people to know. My use of personal email was allowed by the State Department. It clearly wasn't the best choice.
Et si Trump gagnait, ça vous fait rire, Russell Banks, d'entendre les excuses de Hillary Clinton, mais elle est de nouveau piégée dans cette histoire de confusion entre le privé, le politique, sa manière à elle de très personnelle de faire de la politique, de considérer, comme l'a dit tout à l'heure Denis Lacorne, qu'au fond, tout est à elle. Elle est naturellement une candidate, elle est naturellement dans les tuyaux du pouvoir depuis des décennies. Comme si tout lui était donné, acquis, etc.
In and of itself, her use of her improper use.
En soi, son usage critiquable de ses courriels ne constitue pas un crime ou un péché. Colin Powell, ancien ministre des Affaires étrangères, et d'autres s'y sont livrés, eux aussi. Mais ça montre néanmoins qu'elle se sent comme une privilégiée. Et pendant la plupart de sa vie, elle a vécu dans une bulle. C'est l'apanage des gens qui ont été au pouvoir aux États-Unis dès l'université. Du reste, ils ont vécu dans une tour d'ivoire totalement déconnectée de la réalité et des règles qui régissent la vie de nous autres. Et ces gens-là se croient tout à fait privilégiée et devrait avoir le droit de faire ce qu'elle fait. Donc, cela apparaît très clairement. Elle est déconnectée de la réalité. Les courriels, c'est un exemple.
Et
également le fait qu'elle a été payée par Goldman Sachs juste après avoir été ministre des Affaires étrangères. Elle a été payée des millions de dollars pour faire des discours. 400-500 000 $ par discours payé par Goldman Sachs. Et ça, elle trouve que ça ne justifie aucune transparence, pas la peine de le dire au public. Donc, pour ces raisons-là, les gens qui ont peur de Sanders à gauche et qui ont peur de Trump à droite, eh bien, sont réticents à soutenir Hillary. Par ailleurs, elle ne communique pas très bien dans les médias, notamment la télé. On sent que c'est une calculatrice. Ah, c'est peut-être pas le cas, mais on a l'impression que c'est une femme froide, même si c'est pas le cas. Les gens qui la côtoient de façon plus intime, en tête à tête, qui m'ont laissé entendre que c'est une personne authentique. Elle a une personnalité tout à fait chaleureuse, mais il faut communiquer, il faut savoir communiquer. Et apparemment, ce n'est pas son atout le plus fort. Son métier, nous dit Russell Banks en français dans le texte. C'est une candidate faible, ce sera vraisemblablement la candidate des démocrates, et ce sera au bout du compte, au mois de novembre, Trump contre Hillary.
Vous irez voter, Russell Banks?
I voted in February in the Florida primary.
Eh bien, j'ai voté aux primaires de Floride. J'ai voté pour Bernie Sanders, moi. C'était très important que Sanders puisse être aussi fort que possible dans la course pour lutter contre les virages à droite de Clinton et de prendre autant de place possible dans le Parti démocrate. Donc j'ai soutenu Sanders au mois de février et je voterai pour le candidat démocrate, quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit. Et je ferai tout ce que je peux pour lutter contre Trump. Trump à la Maison-Blanche, il n'en est pas question à mon avis. Au mieux, on pourrait dire qu'il est amoral, terriblement cynique. C'est un homme de divertissement. Il recherche le pouvoir. Il n'est pas éduqué. C'est un ignare. Et ce serait un désastre pour les États-Unis et pour le monde s'il était responsable des forces armées, de l'économie américaine, de la vie culturelle américaine. Ce serait un désastre. Au mieux, ai-je dit. Hein. Donc, comment est-ce que Donald Trump pourrait traiter la question de la Corée du Nord, de la question du Moyen-Orient,
mais il a répondu
et Poutine, et ainsi de suite. Non, c'est terrible, c'est horrifique. Voilà.
Alors, deux questions, Denis Lacorne. Ça nous paraît étrange que si les chances du Parti démocrate préserve la personnalité de Bernie Sanders pour pouvoir écraser Donald Trump, y soit écarté. Est-ce que ça n'est vraiment pas possible vu le système électoral américain? Et d'autre part, et si Trump gagnait?
Non, alors le système électoral américain encourage le bipartisme, même si quelquefois il y a des troisièmes partis, mais qui ne percent pas ou ont une toute petite minorité de voix. On peut penser à Nader ou à Ross Perot, le troisième parti est très très désavantagé par le système électoral américain. Donc Sanders peut espérer laisser sa marque.
Mais il ne pourra pas se représenter aux élections suivantes parce qu'il est trop vieux.
Mais il serait effectivement très, très, très âgé, donc c'est très peu probable. Mais pour revenir à la discussion qu'on vient d'avoir, ce qu'il y a de frappant, c'est qu'à partir du moment où Hillary Clinton joue la carte de l'expertise, de la compétence, de l'expérience, elle est très facilement soumise à la critique. Et on pourra dire, mais elle a oublié de faire ça, ou elle a l'histoire des mails. Une personne qui joue sur la compétence et l'expérience est plus facilement critiquable que quelqu'un qui dit tout et n'importe quoi sans craindre les conséquences, puisque de toute manière, ses supporters jouent la carte de la colère et du ressentiment. Donc Trump a fait bien pire qu'Hillary Clinton. Il a monté une université frauduleuse, la Trump Université, où les étudiants payaient des droits faramineux sans avoir de diplôme. Il a utilisé des sans-papiers en Floride et ailleurs. Il a monté des entreprises au Mexique et en Chine, alors qu'il veut établir un système protectionniste. Donc il se contredit constamment. Il y a plein de problèmes. Il n'a sans doute pas payé ses impôts. C'est pourquoi il ne veut pas révéler ses feuilles d'impôts.
Mais là-dessus, donc, Hillary Clinton le poursuit.
Oui, mais la critique ne mord pas, puisqu'il se prétend hors norme. C'est ça le génie.
Hors norme, ça veut dire hors loi?
C'est le danger, effectivement. Le leader charismatique n'est pas attaché par les règles existantes, par les normes existantes, par l'établissement. Son génie, c'est « moi, je rejette tout ». La tradition, les lois, et il y a une espèce de culte du pouvoir personnel, culte du chef, qui est effectivement dangereux et qu'on trouve chez Trump. Et en plus, cette habileté, ce sens de la répartie, c'est-à-dire dès qu'il est attaqué, à juste titre, il va répondre avec les pires hypothèses ou les pires thèses, une espèce de manie de la complotite chez Trump qui a été payante. C'est lui qui avait prétendu aux précédentes élections que Obama n'était pas un citoyen américain. C'est lui qui a prétendu que Clinton aurait peut-être assassiné son conseiller Foster. Donc, il y a constamment des complots avec lui, autour de lui, qui sont absurdes, mais ça circule dans le type de population peu éduquée qui le soutient et qui sait, d'ailleurs on sait qui sont les blancs qui votent pour Trump. Il y a des analyses très très fines qui ont été faites. Ils lisent la revue NASCAR. C'est la revue des courses automobiles. C'est pas les 24 heures du Mans, c'est des automobiles qui sont dans des espèces de grands cirques et qui se cognent les unes et on attend un accident, une explosion. Bon, ça c'est la mentalité des partisans de Trump.
Ils doivent lire aussi les magazines qui traitent de la performance des nouveaux fusils. Parce qu'il
oui,
est
aussi.
Il est pour l'encouragement, et contrairement à Hillary Clinton, de l'armement individuel.
Mais Sanders aussi, paradoxalement. Donc ça, c'était une des faiblesses de Sanders, c'est qu'il n'a pas été dans le passé suffisamment critique des ventes d'armes. Mais c'est pas l'enjeu principal de cette élection. L'enjeu principal, c'est la crédibilité, la légitimité des candidats, et aussi parce que tout va se passer dans c'est une élection américaine. C'est des délégués qu'on doit obtenir dans 4-5 États, c'est tout. Là où c'est serré, ce qu'on appelle le « battleground states », les États décisifs ou les États incertains. Et ces États, c'est quoi? C'est la Floride, la Virginie, la Caroline du Nord, le Colorado, le Nevada, l'Ohio, la Pennsylvanie. Trump va miser sur la ceinture de la rouille, le Rust Belt, les vieux États industriels, c'est là qu'il espère faire le mieux. Donc l'Ohio et la Pennsylvanie, ça va être essentiel pour lui. Hillary Clinton, elle, va miser sur ces États du Sud et du Midwest où les minorités ethniques sont très, très importantes et elle gagnera probablement facilement dans ces États-là. Alors, la difficulté qu'a Trump, en dépit de ce que disent les sondages aujourd'hui, c'est que dans la plupart des études qui sont faites, il n'arrive pas, au jour d'aujourd'hui, à obtenir autant de voix, enfin, en hypothèse, que Romney à la même époque, il y a 4 ans. Et comme Romney avait quand même un bon pourcentage de femmes conservatrices blanches que Trump va perdre, il a un véritable handicap là.
Nous écoutons un extrait de House of Cards, ce que veut l'Amérique.
Il paraît qu'on a les leaders qu'on mérite. Selon moi, voici ce que mérite l'Amérique. Un leader qui vous dit droit dans les yeux ce qu'il croit. Je crois que le peuple passe avant tout. Je crois qu'il faut remettre l'Amérique sur les rails. Je crois que l'Amérique mérite Frank Underwood. Et au fond, vous savez que j'ai raison.
Que veut l'Amérique? Ça sera notre dernière question. Je vous la pose à tous les deux. Que voulez-vous en tant qu'Américain, Russell Banks? Et qu'est-il encore possible dans les quelques mois qui nous séparent de cette élection qui est ô combien importante pour le devenir du monde et de la démocratie?
I very much agree with my colleague here that it comes down to those few
states. Ce que ce nous a dit Denis. En effet, il y a ces États décisifs qui vont jouer un rôle très important. Moi, ce que je voudrais, c'est que le candidat démocrate gagne dans ces États, et je voudrais que Trump ne soit pas le président des États-Unis. Voilà ce que je veux.
That said, I would prefer to see.
Je préférerais voir un candidat comme Bernie Sanders reprendre la maîtrise du Parti démocrate. Je voudrais que ce parti évolue pour redevenir le Parti démocrate que moi je connaissais quand j'étais jeune homme. C'était le parti d'un Roosevelt ou d'un Lyndon Johnson. C'était un parti démocrate progressiste. Dans les années qui ont suivi les années Johnson, on est passé de la gauche au centre et du centre à la droite, et le Parti républicain a viré vers l'extrême droite quant à lui. Donc tout le spectre politique, moi je l'ai vu virer à droite depuis les années 60. Et je pense que Bernie Sanders nous donne la possibilité d'imaginer un virage vers la gauche à nouveau pour le Parti démocrate, pour qu'il reprenne ses racines rooseveltiennes du New Deal pour aller des années 30, 40, 50, comme ça, vers les années 60.
Denis Lacorne.
Moi, je vais prendre deux positions. Je vais m'imaginer, aussi difficile que ce soit, comme un jeune chômeur ou sous-employé blanc qui vit dans le Midwest et qui passe son temps devant la télévision, qui adore la télé-réalité. Dans ce cas-là, je vote pour Trump. Ce que j'aime en Trump, c'est l'apparence ou l'illusion de l'authenticité qui est une valeur clé dans la télé-réalité. Peu importe si c'est vrai ou non, il dit ce qu'il a sur le cœur, il dit la vérité parce qu'il est authentique. Donc je voterai pour Trump. À l'inverse, si je suis un jeune qui a fait de bonnes études et qui habite à New York ou à Miami et qui est pour Sanders, là, c'est très difficile, parce que qu'est-ce qui se passe? Hillary Clinton va être la candidate, et je serai dans la position de ce que j'appelle, des choses qu'on a connues en France aussi, l'électeur captif, dans le fond. Soit je ne vote pas, mais je risque de faire passer Trump, je vais quand même pas voter pour Trump parce que ses idées sont trop répugnantes, sa xénophobie et son racisme sont insupportables. Donc je voterai probablement à contre-cœur pour Hillary Clinton parce que c'est le moindre mal. Mais évidemment, c'est un vote qui n'est pas complètement satisfaisant. Et le grand problème, la grande difficulté que devra affronter Hillary Clinton, c'est d'obtenir un taux de participation fort de la part de jeunes, de la part de femmes, de la part de membres de minorités ethniques qui seront peut-être hésitants à se déplacer pour aller aux urnes. Le taux de participation, c'est un peu la clé de ce vote. Si les jeunes votent autant que d'habitude ou plus que d'habitude pour Hillary Clinton, elle l'emportera. S'il y a une tentation de croiser les bras, de rien faire, à ce moment-là, on risque d'avoir un président, le pire des présidents possibles, qui créera un État policier aux États-Unis, sinon un État totalitaire, et qui serait Trump.
Ben merci beaucoup à vous deux. On se retrouvera dans 6 mois. Merci à Russell Banks. Tous vos livres sont publiés aux éditions Actes Sud. Merci à Denis Lacorne, auteur notamment de La religion en Amérique. Et nous allons nous quitter en musique en écoutant Woody Guthrie, This Land is Your Land.
This land is your land, and this land is my land. California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, and I saw above me that endless skyway, I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me, a voice was a-sounding. This land was made for you and me.
Merci à Xavier Combe qui a assuré la traduction simultanée des propos de Russell Banks. Merci à Philippe Palares, à Swad Boukorsa, à Ophélie Vivier, à Jean-Baptiste Audibert. Et après le prochain flash de la rédaction, vous retrouverez comme chaque samedi Denis Chessou pour CO2, mon amour.